l'actualité des idées aujourd'hui quand le seul espace commun est celui régi par le droit? Qu'est-ce qui nous unit encore? C'est le tous pour un de Jean-Claude Michéa qui analyse dans la lignée de ses précédents essais l'irruption du capitalisme dans le socialisme et ses effets. Philosophe critique, rouge-brun pour les uns, socialiste conservateur pour les autres, il porte le stigmate ou les lauriers de ceux qui tapent sur une partie de leur camp, lui contre cette gauche droite lomiste et acquise au progrès qui a abandonné le peuple anticapitaliste. Revendiqué, l'auteur de l'Empire du moindre mal et de Notre ennemi le capital revient aujourd'hui avec Le loup dans la bergerie, toujours dans la collection Climat de chez Flammarion. Bonjour Jean-Claude Michéa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le syndicat des avocats de France vous avait demandé de vous situer au croisement, à la jonction du marché et du droit et de dire ce que vous voyez et qu'avez-vous vu. Est-ce qu'on peut dire que le premier constat, c'est d'abord une multiplication indéfinie de nouveaux droits?
Ah ben, s'il y a une chose qui saute aux yeux dans la société actuelle, et particulièrement depuis quelques décennies, c'est le fait que la logique du droit et la logique des droits de l'homme, qui est au cœur de cette institution du droit, est désormais animée par un principe d'illimitation. Il faut d'abord préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand je critique l'idéologie des droits de l'homme, c'est à aucun moment une critique des libertés individuelles et des droits éventuellement réunis en charte qu'on peut estimer fondamentaux. Les deux choses sont très différentes. Il existe une longue tradition, si je me réfère au livre de Quentin Skinner, qui s'appelle « La liberté avant le libéralisme », qui montre que beaucoup de droits individuels et de libertés individuelles ont été défendus dans l'histoire sans que cette défense s'appuie sur l'idéologie des droits de l'homme. Mais ce qui est nouveau, c'est que à partir du moment où l'idéologie des droits de l'homme se présente comme une évidence, elle libère progressivement son principe d'illimitation. Je vais vous donner deux exemples. Cet été, dans le Var, des touristes parisiens s'en sont pris au maire d'un petit village provençal et aux habitants parce qu'ils refusaient de mettre un terme à ces nuisances sonores que représentait le chant des cigales, qui était vécu comme une atteinte fondamentale à leur droit en tant que touristes de vivre comme ils l'entendent. Bon. Là, nous franchissons un pas. Et puis tout le monde sait, ça tournait en boucle sur les réseaux, cette fameuse séquence de arrêt sur image où vous voyez un homme blanc, chauve et barbu. Le présentateur lui dit « Monsieur, vous allez... Pourquoi m'appelez-vous monsieur? Qui vous dit que je ne suis pas une femme ?» On rentre dans une logique étonnante. Et d'ailleurs, j'ai pensé
un peu plus tard à Richard Ferrand. À l'occasion de la marche des fiertés qui recevait effectivement
des représentants. Et j'ai pensé à Richard Ferrand qui, quand on lui a dit « Mais ça vous gêne pas vous, un homme, d'être élu au perchoir de l'Assemblée alors qu'il y avait deux femmes candidates ?» Je ne sais pas ce qu'aurait été la réaction du monde médiatique s'il avait répondu à ces journalistes, mais... qui vous dit que je suis un homme? Peut-être que je suis la première femme noire de petite taille élevée à la dignité de président de l'Assemblée. Donc, à travers ces deux exemples, mais on pourrait les multiplier, surtout si on puise dans le trésor américain, on s'aperçoit qu'il y a une pente glissante et que cette idéologie des droits de l'homme enferme en elle un moteur étrange qui, non seulement... précipite cette évolution, mais la conduit à se retourner contre elle-même. C'est-à-dire, au fond, la liberté d'expression, il arrive un moment, une sorte de courbe de Gauss, où elle diminue. Et donc, dans cette conférence face au syndicat des avocats, comme c'est un syndicat très radical qui regroupe notamment pas mal d'avocats anarchistes,
ça les intéressait beaucoup. Voilà, en vous accueillant.
De m'entendre critiquer le droit de telle manière que ça ne veut pas dire un refus des libertés individuelles et des chartes.
Alors, une société où tout est permis est un leurre pour vous, Jean-Claude Michéa. Mais si on reprend l'exemple des cigales dans le Var, c'est une revendication des touristes parisiens. Ça n'en devient pas pour autant un droit. On est d'accord, à moins que le maire leur ait donné raison et éliminé toutes les cigales du voisinage.
Le maire ne leur a pas donné raison, mais la formulation se fait dans le langage des droits. C'est-à-dire que je rappelle le principe de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que la liberté, c'est-à-dire le droit pour chacun de vivre comme il l'entend, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut de son temps, de son argent ou de son corps, ne saurait connaître aucune limite qui soit fixée par la religion, la morale ou la philosophie. La seule limite que mon droit de vivre comme je l'entends peut rencontrer, c'est la liberté symétrique de mes semblables.
Seule la liberté peut limiter la liberté.
Seule la liberté peut limiter la liberté. Et ça, sur le papier, c'est magnifique. À tout moment, on a envie de dire, dans la vie, quand quelqu'un vient empiéter sur notre espace privé, nous revendiquons le droit de vivre comme nous l'entendons, etc. Mais le problème, c'est qu'arrive un moment où le principal critère, je peux faire ce que je veux, du moment que ça ne nuit pas à autrui, la notion de nuire à autrui a un sens opératoire tant qu'il existe encore, comme disait Castoriadis, des gisements culturels, des valeurs partagées, qui fait qu'on arrive à s'entendre globalement sur cette notion. Mais à partir du moment où la logique de la société épuise ces gisements et efface tous les critères, arrive un moment où tout peut être considéré par moi comme une nuisance dont j'ai raison de me plaindre. J'ai parlé des cigales. Prenons encore un exemple rural, c'est le fameux procès dans le Cantal, et cette fois-ci perdu par le cultivateur. Un éleveur de vaches, un petit éleveur qui est dans le Cantal et qui pratique cet élevage de génération en génération, puisque la ferme a été construite en 1805. Dès un couple d'urbains s'installe à côté de sa ferme et, au bout de quelques temps, dit « l'odeur des vaches nous incommode ». C'est une nuisance, elle viole nos droits fondamentaux. C'est bien votre liberté d'élever des vaches s'arrête où la nôtre commence, celle de ne pas être incommodée. Mais ce qui est nouveau, c'est que la justice de Riom, y compris en appel, donne maintenant raison aux urbains contre l'éleveur.
Qui était là,
et ouais. Lui ordonne de déplacer de 30 ou 50 mètres sa ferme construite en 1805. Là, on voit bien que qui nuit à qui ? Est-ce, à votre avis, l'urbain qui vient s'installer auprès d'un éleveur de vaches et qui se plaint de la violation de ses droits par l'existence des vaches, ou l'inverse ? Il n'y a pas de réponse axiologiquement neutre. Et c'est tout le problème de l'idéologie des droits de l'homme.
Bon, en tout cas, ces deux-là vivent maintenant dans des relations de bon voisinage, peut-être, depuis pas que la justice
tout.
Est intervenue.
Le village est absolument dressé contre l'envahisseur urbain. Mais le problème, c'est que la justice, qui se règle toujours sur l'idéologie et le rapport de force du moment, commence à donner raison aux urbains. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand un touriste urbain venait se plaindre du fait que le clocher sonnait à telle heure ou que le voisin avait un coq qui le réveillait le matin, tout le monde riait.
Et on
Mais
disait rentre à la ville.
Nous rentrons dans une logique où les premiers procès donnant raison à l'urbain qui s'installe, et je parle en connaissance de cause puisque j'habite maintenant dans une région rurale, ce genre de phénomène va se développer et la justice va de plus en plus prendre parti au nom des droits de l'homme en faveur de l'urbain plutôt que du paysan local.
Alors Jean-Claude Migère, on voit bien sur le plan du droit les conséquences de ce que vous décrivez, c'est-à-dire une judiciarisation croissante des rapports sociaux à l'américaine et une multiplication des revendications de droits exigés qu'on va faire valoir devant les tribunaux. D'un point de vue philosophique, vous parlez de cette atomisation du monde, en reprenant le mot de Engels. Quelle est la conséquence de cette dissolution de nos manières de vivre ensemble ?
Marx, puisque je me réclame quand même beaucoup de Marx, reprend dans ses œuvres la formule d'Aristote « l'homme est un animal social ». Et un des arguments qu'il donne est d'un bon sens absolu. Le simple fait que l'homme est un être de langage montre bien la dimension relationnelle de l'existence humaine. Mais l'idéologie moderne, l'idéologie libérale, l'idéologie des droits de l'homme, part au contraire de ce que Marx appelle des Robinsonades, c'est-à-dire, au départ, dans cet état de nature primitif, quand, comme dit Locke, le monde était une immense Amérique déserte, chacun est propriétaire absolu de lui-même. C'est cette idée d'appliquer la catégorie de propriété privée à soi-même pour définir la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Pour un libéral, c'est être propriétaire privé de soi-même. Et c'est vrai dans certaines limites, puisque l'esclave est esclave, puisqu'il est la propriété privée d'un autre. Et dès lors qu'on considère que, au départ, ce qui est premier, c'est l'individu qui est, comme dit Marx, séparé de la communauté, de l'homme et de lui-même, qui est, en tant que propriétaire privé, fondé à faire ce qu'il veut de son argent, spéculer ou le donner aux pauvres, de son temps, travailler le dimanche, il a envie de travailler le dimanche, de son corps, se prostituer, se droguer, etc. Si on part de cette vision individualiste farouche, la dimension de la socialité, et là ça nous renvoie à Marcel Mauss, l'existence sociale se fonde sur la triple obligation de donner, recevoir, rendre, sur l'entraide, les structures de solidarité traditionnelles. Tout ceci est conduit à se dissoudre et on arrive, comme dit Engels, à cette désagrégation de l'humanité en monades dont chacune a un principe de vie particulier et un style de vie particulier. Avec cette différence que Engels y voyait la définition du capitalisme, alors que la gauche postmoderne, celle qui domine aujourd'hui, verrait dans ce que Engels et Marx dénoncent l'idéal à accomplir. Un monde au-delà même du multiculturel, où il n'y aurait que des individus centrés sur eux-mêmes, vivant comme ils veulent, enfermés dans leur bulle. Je dis souvent que l'adolescent, avec les écouteurs sur les oreilles, symbolise ce règne de la séparation dont parlait Debord, et dont par conséquent les seules façons de vivre ensemble, ça serait une charte abstraite des droits de l'homme, où la liberté des uns n'est limitée que par celle des autres, et des rapports purement contractuels, analogues à celui qui unit vous et le marchand quand vous allez acheter un kilo de tomates. Vous avez un rapport contractuel fondé sur l'intérêt réciproque et qui n'aliène ni la liberté du marchand ni la vôtre.
Voilà, donc il n'y a plus de communauté humaine, il y a un ensemble de droits, une espèce de montagne de droits qui s'accumulent et ne font pas espace commun pour vous, Jean-Claude Michéa.
Qui ne font pas société.
Qui ne font pas société. Et il y a un mot sur lequel vous insistez beaucoup, c'est celui d'illusion. À la fois illusion de la liberté, mais aussi illusion juridique, ça va de pair. Le contrat étant pour vous le comble de cette illusion,
alors,
en tout cas son visage premier.
C'est pour moi qu'il est le comble de l'illusion, c'est pour Marx qui est le premier à employer le terme d'illusion juridique. Mais tout ce que la gauche aujourd'hui a oublié, cette gauche du libéralisme culturel, c'est que pour Marx, la société, c'est pas une agrégation d'individus comme des pommes de terre dans un sac. L'homme vit toujours déjà en communauté. Et il dit même d'ailleurs que c'est dans la société où les rapports sociaux, en termes modernes, le degré de connexion est le plus grand, que se développe la figure de l'individu séparé des autres. Robinson apparaît comme figure littéraire et philosophique dans un monde qui devient le monde de plus en plus connecté. Et quand il dit illusion juridique, c'est qu'en partant de la société comme constituée d'individus, le rapport de celui qui, ancien paysan, chassé de ses terres, n'a plus aucun moyen de vivre de façon autonome, en cultivant son potager, en élevant ses animaux, mais doit vendre sa force de travail à un employeur qui dispose d'un capital et peut le faire travailler dans son entreprise. Marx dit, ce rapport salarial donne à chacun l'illusion qu'il s'agit d'un simple contrat. J'accepte de t'employer, tu acceptes de travailler pour moi, je te dois un salaire, tu me dois un travail. Et tout ceci se passe dans le meilleur des mondes, sur la base de deux libertés qui s'accordent. Et Marx disait, l'illusion juridique, c'est ne pas voir qu'il y a derrière cette réalité du rapport salarial une structure de classe, une minorité au contour très difficile à définir qu'il appelle la bourgeoisie, une majorité qu'il appelle le prolétariat. Tout ça, ça peut être affiné, mais ce qui reste juste dans l'idée de Marx, c'est que si on raisonne en termes individualistes, en termes sartriens, si l'on veut par exemple, du premier Sartre, l'exploitation de l'homme par l'homme et la division de la société en classes ne sont plus pensables. Or, jamais les inégalités sociales n'ont été aussi grandes que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde le plus individualiste qui soit. Nous n'avons jamais été aussi libres comme individus et jamais aussi été aussi dépendants en même temps des mouvements du marché mondial et de la société.
Voilà, c'est l'exemple typiquement du travail le dimanche, de contrats qui peuvent être passés entre l'employeur et le salarié.
C'est l'exemple
d'illusion juridique.
C'est facile à former le slogan du libéralisme, et notamment de gauche, c'est « mon corps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon temps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. C'est vrai dans certaines limites, parce que sinon on est dans un système totalitaire. Mais à partir de quel moment l'usage que je vais faire de mon corps, de mon temps, de mon argent, va détruire la vie commune ? Et l'exemple du dimanche, le libéral dit, mais moi je vous empêche pas de pas travailler le dimanche. Si vous voulez vous reposer le dimanche, c'est votre problème. Moi j'ai envie de travailler. En quoi ça vous regarde ? Je ne gêne personne, je ne nuis à personne. Mais au fur et à mesure que dimanche devient mange-dit, et un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent, la vie sportive, familiale et associative devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre, et on s'aperçoit au bout de quelques temps que toutes ces décisions présentées comme privées finissent par modifier la vie commune. Et on a parlé du travail le dimanche, mais je dis dans mon texte, essayez de vivre sans téléphone portable, sans ordinateur et sans voiture dans la société moderne, le choix des autres... Ah, moi, j'ai choisi d'avoir un portable. J'étais le premier à en avoir. J'en suis très fier. A fini par, resculpter autrement la vie commune. Et vous, si vous n'avez pas fait ces choix, eh bien, vous allez être dans des, confronté à des difficultés, des problèmes, devenus presque insurmontables.
Vous n'avez pas de téléphone portable, vous, Jean-Claude Bichard?
J'ai freiné très longtemps. Et à un moment, les thèses que je défends ont été vérifiées dans mon cas, mais j'ai toujours pas de permis de conduire, et je mourrai sans passer de permis de conduire. Et l'usage que je fais du portable, de mon ordinateur, est quelque chose que je diminue chaque fois qu'il est possible.
Il y a quand même des grandes questions qui se posent au fil du temps aux sociétés dans lesquelles nous vivons. On a évoqué celle du travail du dimanche, on aurait pu parler aussi de la question du voile qui a fait beaucoup débat. On peut venir à une question d'aujourd'hui, celle de la GPA, de la gestation pour autrui. Typiquement, là c'est le contrat, le consentement des deux personnes qui est mis en avant dans les sociétés qui l'autorisent. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la technique permet de procéder à une GPA et à répondre à ce désir d'enfant pour ceux qui l'ont. Si c'est pas le droit qui va réglementer, régir cette question, qu'est-ce qui peut s'y substituer ? Comment vous l'abordez-vous, une question comme celle-ci ?
Dans les sociétés précapitalistes, le problème ne se posait pas parce que ce que Mauss appelait l'anthropologie du don et la logique du don faisait que chacun savait ce qu'il était obligé de donner, à qui, dans telles circonstances, de rendre. Et vous aviez des rapports sociaux qui n'étaient pas fondés sur le contrat donnant-donnant, ni sur l'échange marchand. Et du reste, toute une partie de notre vie quotidienne échappe encore à la logique du marché et du contrat. Si vous analysez 24 heures de votre propre vie quotidienne, je t'invite au café, laisse c'est pour moi, tu payeras la prochaine fois, on est invité chez vous samedi prochain, qu'est-ce qu'on amène ? Mais amène-toi, c'est pas la peine. La socialité, même encore aujourd'hui, et Mauss le montre, fonctionne, notamment l'amitié, les rapports entre voisins, les rapports au sein de la famille, ne sont pas des rapports marchands, ni juridiques. Alain Caillé, un des théoriciens du Mauss, a été un des premiers à signaler que quand dans un couple, la question d'argent rentre en jeu, c'est quand le couple se défait et qu'après le divorce, va entrer en jeu la question des pensions alimentaires, tu me dois, je te dois, mais tant que le couple fonctionne, ce qui l'unit n'est pas un contrat économique, du moins tant que le couple n'a pas atteint un certain degré de modernité, un échange économique ou un contrat purement juridique. Ça se passe autrement. Et l'idée du socialisme, c'est de dire qu'il y a des choses qui doivent rester communes et qui ne sont pas fondées sur le contrat entre individus ou l'échange marchand entre individus. Tout le problème est bien sûr là. Qu'est-ce qui doit rester commun ? Le totalitarisme, c'est cette perversion du socialisme qui veut tout mettre en commun, à la manière des Saint-Simoniens qui, dans leur communauté, construisaient un uniforme qui se boutonnait dans le dos pour que personne ne soit capable de s'habiller tout seul sans l'aide d'un membre de la communauté. Là, on est, à l'évidence, dans un système étouffant et totalitaire. Mais lorsque Orwell parlait de la common decency, le pari que je fais, le pari socialiste, c'est que on peut élargir de façon maximale les droits de l'individu et les libertés collectives, l'autonomie de tous et l'autonomie sociale, sans pour autant dissoudre, dans les eaux glacées du calcul égoïste, toute valeur partagée et commune.
Voilà, et donc le droit garde quand même des capacités émancipatrices pour vous ?
Ah mais, est-ce que, c'est un point sur lequel il y a... beaucoup de contresens sur ce que j'écris. Marx est le premier à dire, il va même jusqu'à dire que l'émancipation de chacun est la condition de l'émancipation de tous. Il faut s'autonomiser en tant qu'individu, c'est le but des anarchistes et de la plupart des socialistes de l'époque. Simplement, il faut comprendre que s'émanciper de tous les liens fondés sur l'oppression et la domination, ça ne veut pas dire s'émanciper du lien social lui-même. Il y a des liens qui libèrent l'amour, l'amitié, toute cette panoplie que Proudhon a magnifiquement décrite, que les anarchistes ont souvent décrit. Et il faut savoir un moment où le curseur va se situer pour que l'émancipation individuelle ne s'opère pas au détriment de la vie commune. Mais j'aurais tendance à dire quiconque a joué au football... et je répondrai comme Camus, tout ce que je sais sur la morale et les hommes, c'est au football que je le dois, c'est qu'il n'y a aucune contradiction, à partir d'un certain moment, entre le collectif et la capacité de briller individuellement. C'est quand le collectif fonctionne comme un vrai collectif, tous pour un pour tous, que chacun est mis dans les meilleures dispositions pour s'épanouir. Pasolini et Camus ont écrit des choses merveilleuses là-dessus. Et ça explique pourquoi... d'un côté, Galbraith, en tant que libéral, disait que le socialisme était, condamnait le socialisme, c'était une perversion due à un goût maladif pour les sports collectifs. Alors qu'inversement, vous aviez Bill Shankly, l'entraîneur de Liverpool, socialiste et marxisant, qui disait au contraire, le football, c'est une école de socialisme. Peut-être que mon rapport au football, très camusien, explique cette facilité que j'ai à rentrer dans la dialectique émancipation individuelle, vie commune, l'une s'appuyant sur l'autre sans qu'il y ait de contradiction antagoniste.
Mais il y a un problème quand le collectif, et c'est le cas de l'hémicycle, de la représentation nationale, exclut une partie de l'humanité. Depuis un an, on a une Assemblée nationale qui s'est considérablement rajeunie et féminisée. Est-ce une bonne chose ?
C'est une bonne nouvelle, disons-le clairement. L'Assemblée nationale se féminise.
Absolument. En 2012, dans l'Assemblée élue, il y avait 155 femmes. Désormais, elles seront 224, 39% de femmes au Palais Bourbon. C'est tout simplement du jamais vu. Alors regardez, qui sont les bons élèves ? Eh bien, c'est la République en marche. 47% de ces élus sont des femmes contre 23% pour les Républicains et l'UDI.
Beaucoup de jeunes aussi dans cette nouvelle Assemblée. La moyenne d'âge sera moins élevée.
Effectivement, en 2012, la moyenne d'âge, c'était 54 ans. Cette année, eh bien, c'est 49 ans. Regardez, dans la nouvelle Assemblée, il y a désormais près d'une trentaine d'élus de moins de 30 ans et moins d'une centaine de plus de 60 ans.
Dernier élément, enfin, Guillaume, des parcours professionnels différents. Beaucoup de ces nouveaux députés sont issus du monde de l'entreprise.
Le nombre de chefs d'entreprise devrait, par exemple, être multiplié par deux. Il devrait être une cinquantaine. Le nombre aussi de cadres d'entreprise devrait bondir d'un tiers. Et d'après les calculs de notre équipe de l'œil du 20h, il va y avoir un basculement. Dans l'Assemblée élue en 2012, eh bien, ceux qui étaient issus du secteur public étaient majoritaires. Eh bien, désormais, les députés issus du secteur privé devraient être les plus nombreux, 59% des nouveaux élus issus du secteur privé.
Jean-Claude Michéa, vous le voyez, là, le pas vers l'égalité ?
Alors, je ne sais pas, ça doit être un extrait d'une émission de France Info. Je ne sais pas, mais ça ressemble.
C'était France.
J'ai un passage dans mon livre sur ce sujet. Cette assemblée est la plus féminine de l'histoire et la plus jeune. Et je dis, d'une certaine manière, c'est un progrès évident. Je dis même, il faudrait vraiment avoir la nostalgie de ces tribunes des pays de l'Est. Autrefois, on voyait des gérontes bardées de décorations supposées représenter le peuple. C'est très bien. Sauf que ce que nos Laurel et Hardy de l'analyse sociologique n'ont pas dit il y a 5 minutes, c'est aussi l'Assemblée nationale qui est la plus consanguine et la moins populaire depuis 1871. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que ouvriers, paysans, employés, petits commerçants représentent encore 60 à 70% de la population, ils ne sont plus représentés, entre guillemets, que par 3% des députés. Et alors on a là une contradiction dialectique. Il y a un pas en avant sur le plan sociétal qu'il faut saluer, mais qui se paye de deux pas en arrière sur le plan social. Et tout le problème dans les livres que j'écris, c'est essayer de comprendre cette contradiction. La contradiction ne vient pas, évidemment, ce n'est pas l'émancipation des femmes ou le rajeunissement du monde politique qui fait problème. C'est quand l'émancipation des femmes ou des jeunes se fait comme idéologie de substitution de la représentation des classes populaires. Et le signe que c'est bien ce qui se passe actuellement, c'est que, mettons-nous du point des femmes, quelles sont les vraies victimes parmi les femmes de cette assemblée actuelle ? C'est que les femmes issues du peuple, les femmes de ménage, les aides-soignantes, tous les caissières des supermarchés, les vendeuses, etc., ces femmes, où sont-elles à l'assemblée ? Il n'y en a pas une. Les éternels oubliés du féminisme bourgeois, de ce que Paul Lafargue appelait les madames du capitalisme pour dénoncer les Hillary Clinton de son temps, elles sont toujours les grandes oubliées de la représentation.
Mais c'est compliqué, Jean-Claude Bichat, de ne pas entrer quand même dans une concurrence des victimes ou dans une concurrence des oubliés. On se souvient des féministes du MLF qui racontaient à l'époque, elles socialistes, elles communistes, comment il était compliqué de faire valoir leur voix dans les débats et de trouver ou de donner à la question de l'égalité homme-femme aussi une certaine place, une certaine logique dans la lutte des classes. Et leurs collègues masculins les rebootaient à chaque fois sur ces questions-là. Donc comment ne pas tomber dans cela aussi ?
C'est relativement facile à répondre à cette question sur le plan théorique. La pratique, c'est toujours autre chose. Sur le plan théorique, il ne faut pas que le combat pour l'émancipation des femmes, ou des homosexuels, ou des minorités, devienne un combat de substitution dont la fonction est de remplacer l'analyse de classe. Là, un livre vient de paraître de Thomas Frank aux éditions Agone, « Pourquoi les riches votent à gauche », qui montre comment, en 1972, la commission McGovern est la première à dire « Il faut faire une croix sur les ouvriers, les paysans, les travailleurs. Ce sont des êtres homophobes, racistes et bêtes, peu diplômés. L'avenir de la gauche, c'est de s'appuyer sur les femmes, les jeunes et les minorités. » Alors que ma théorie, c'est qu'il faut lier les deux et... En 30 secondes, je cite dans mon livre précédent toujours ce film éblouissant qui s'appelle Pride, ce film anglais, qui raconte comment en 1984, un groupe de gays et lesbiens socialistes anglais va venir soutenir les mineurs gallois. Donc au départ, effectivement, ils sont accueillis un peu comme des gens venant d'une autre planète. Mais dans leur capacité à montrer un dévouement réel à la cause ouvrière, ils finissent par faire comprendre aux mineurs gallois que la défense des homosexuels et la lutte contre l'homophobie fait partie du combat de classe. Là, les deux sont liés, mais c'est le contraire de l'attaque LGBT, de l'approche LGBT du problème. C'est le contraire, c'est orwellien ce film au contraire.
13h23 sur France Culture, notre invité, le philosophe Jean-Claude Bichat, à l'occasion de la parution de son nouvel essai, Le loup dans la bergerie socialiste, dans la collection Climat de chez Flammarion. France Culture, 13h24.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et vous l'écrivez, Jean-Claude Bichat, il ne s'agit pas de dénoncer comme purement formelle, illusoire, mensongère les libertés fondamentales dont l'idéologie des droits de l'homme prétend monopoliser aujourd'hui la défense, mais de proposer une autre manière philosophique de fonder ces libertés indispensables qui, en permettant de désamorcer le principe d'illimitation qui ronge l'idéologie des droits de l'homme, éviterait de faire entrer le loup de Wall Street dans la bergerie socialiste. Votre thèse, elle tiendrait presque en une phrase, qui commence par Kouchner, finit toujours par Macron, extrait de la définition des droits de l'homme de Bernard Kouchner dans sa voix.
On va bientôt fêter le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Moi, je suis pas trop pour les anniversaires, vous savez, heureux ou amer. L'évolution a été formidable. Il y a 60 ans, on n'imaginait pas que les droits de l'homme, c'est-à-dire la façon individuellement dont les hommes ont le droit de vivre, de penser, de publier, d'exprimer leurs opinions, que ces droits de l'homme seraient un élément majeur, sinon le plus important, de tous les rapports politiques à travers le monde. Même si certains n'ont pas encore tout accepté, même si certains justement disent qu'il y a deux poids, deux mesures, qu'on ne les applique pas de la même façon, et il y a des tas de critiques qu'il faut entendre. Oui, c'est un anniversaire heureux, les choses ont avancé, et pour ce qui nous concerne, nous avons fait avancer le droit d'ingérence, c'est-à-dire l'espèce de droit préventif, il n'est pas encore assez préventif, qui ferait qu'on empêcherait les massacres avant qu'ils n'interviennent. Ce qui s'est traduit à l'ONU et accepté par tous, par le concept de responsabilité de protéger. Tout le monde est responsable de tous les autres.
Voilà, Bernard Kouchner, alors il ne pratique pas le même socialisme que vous, Jean-Claude Michéa. Qu'est-ce qui, dans ce qu'il vient de développer, vous gêne? Avec quoi êtes-vous franchement opposé dans sa définition ou la place qu'il accorde aux droits de l'homme?
D'abord, il dit, Marcel Gauchet avait été, dès 1980, un des premiers à dénoncer cette dérive. Il fait de l'idéologie des droits de l'homme l'alpha et l'oméga de la nouvelle politique, et notamment de la politique de gauche, bien que Kouchner ait fini également ministre de Sarkozy, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est un Sarkozyste qui continue à se penser comme de gauche. Et il est le témoin de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il est associé au bateau pour le Vietnam, qui réconcilie à l'époque Foucault, Sartre et Aron. Et qui me permet de revenir un peu sur cette introduction du loup dans la bergerie. Bien sûr, Gauchet lui-même le rappelle. La référence aux droits de l'homme dans les années 70, a eu une raison d'être. C'était l'époque où on commençait, sur fond de néolibéralisme montant, à mettre en question le totalitarisme soviétique. Il faut quand même se rappeler qu'en 1972, quand Solzhenitsyn vient à apostrophe, Jean Daniel, qui s'est beaucoup kouchnerisé depuis, le remet à sa place en l'accusant de propagande anticommuniste. En 1972, vous dites encore « le goulag existe » et vous êtes un fieffé réactionnaire. Vous voyez comment le mot « réactionnaire » peut être utilisé à toutes les sauces. Et à cette époque, pour défendre les dissidents, ça a eu des effets pratiques utiles, mais au prix de l'introduction théorique d'une idéologie qui allait peu à peu évacuer avec le totalitarisme, pour le même prix et dans la même corbeille de mariage, l'anticapitalisme.
Alors aujourd'hui, quand l'individualisme, ce refus de toutes les limites, cette croyance aussi dans la technologie a pris le pas sur le reste, sont devenus des marqueurs, vous dites valeurs de gauche, ça pose problème. Dans le loup, dans la bergerie, le prédateur, vous le dites, Jean-Claude Michéa, c'est le libéralisme, c'est le loup de Wall Street, et les moutons, les agneaux de la bergerie, c'est l'homme. En même temps, la bergerie socialiste, elle est quasi déserte aujourd'hui. L'érosion, elle a commencé par la base, adhérents et électeurs, pour atteindre le sommet. Je ne sais pas si c'est la crainte du loup ou s'ils ont été tout simplement dévoré, en tout cas au Parti Socialiste tel qu'il existait jusqu'ici. Une question, hier en écoutant les mots de Benoît Hamon, qui a été le candidat socialiste à la dernière présidentielle, il disait que la classe politique était déconnectée des solutions proposées par les Français. Ce qui paraît être aujourd'hui presque un pis-aller. Est-ce que vous pensez, parce que lui se référait à la figure de Nicolas Hulot, en estimant que c'était le bon interlocuteur à avoir aujourd'hui, parce qu'il pose le bon diagnostic, à un an de l'échéance européenne, est-ce que vous pensez que l'écologie est devenue le nouvel horizon du socialisme?
Mais là, on risque de retomber exactement dans ce que j'ai reproché à un certain type de féminisme ou d'antiracisme ou de lutte contre l'homophobie, quand il vient comme objectif qui est censé dispenser d'une analyse du capitalisme. Or, je fais partie de ceux qui pensent que la crise écologique et les désastres qui s'annoncent, hein, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils sont de plus en plus effrayants, c'est tout simplement la crise de l'écologie, la conséquence logique d'un monde qui est fondé sur ce qu'on appelle la croissance illimitée, exponentielle, qui est le nom médiatique de ce que Marx appelait l'accumulation illimitée du capital. En sorte qu'on ne peut pas commencer une critique des dangers écologiques qui nous menacent sans remettre également en question le mythe de la croissance et la manière de produire, qui est celle du capitalisme, où il s'agit toujours de faire du chiffre, quelle que soit l'entreprise, même dans une radio, faut faire de l'audimat, c'est un cas particulier de la politique du chiffre, indépendamment de tout autre critère philosophique, morale ou autre.
Et il faut rendre l'antenne à l'heure aussi. Ah. Encore les chiffres. Jean-Claude Michéa, merci beaucoup. Le loup dans la bergerie socialiste. Votre nouvel essai vient de paraître dans la collection Climat chez Flammarion. Pour vous dire, en quelques mots, on vient d'apprendre aussi la mort de l'urbaniste et philosophe Paul Virilio, ancien directeur de l'école spéciale d'architecture à l'âge de 86 ans, un philosophe qui avait entrepris dès les années 70 une réflexion axée principalement sur la vitesse. Dans les années 80, aux côtés d'autres, et notamment de Patrick Giros, il s'était engagé en faveur des logis et des exclus, une grande voix donc de la philosophie qui vient de s'éteindre. On vous en reparlera dans la grande table.